La convention annuelle Anacofi sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
David Charlet est au micro de Radio Patrimoine ici au sein de la convention 2026 de l'Anacofi. Tout juste réélu, brillamment réélu. David, bravo.
Merci beaucoup.
Si on devait regarder un petit coup dans le rétro, parce qu'on rappelle le cycle de vie entre guillemets de l'Anacofi, c'est d'une convention à l'autre. Alors disons que comme on était à la convention 2026, on va tirer le bilan de 2025. S'il fallait mettre un qualificatif sur cette année, vous la trouveriez utile ou subie ?
Ça dépend de quoi on parle. Utile pour faire avancer ce que l'on voulait faire avancer, certainement. On a réussi à obtenir quelques concessions dans des négociations, tout ce genre de choses ça a été fait. On a réussi à faire avancer plusieurs chantiers qu'on voulait faire avancer dans l'Anacofi, y compris purement entreprise Anacofi, si je puis dire. Par contre, subi parce que on a vécu une évolution de notre population de membres qui n'était pas prévue. On a eu un turnover, ou plus exactement un renouvellement qui n'était pas du tout anticipé, une réorganisation des entreprises, dont je mets dans le turnover aussi la réorganisation, c'est pas forcément la disparition avec de nouvelles, qui n'était pas attendue dans ces volumes-là et qui a provoqué des problématiques, y compris de gestion, jusque dans l'Anacofi. Il a fallu mettre des moyens, là on n'a pas prévu d'en mettre pour répondre à nos membres ou gérer ce que ça provoquait. Voilà, ça a été subi. Le reste, on ne l'a pas subi pour le coup sur la mission fondamentale de l'Anacofi. On ne l'a pas subi, on a plutôt été à fond, mais parce qu'on le savait. C'est-à-dire qu'on avait noté qu'en 24, c'était une année, il y a beaucoup de travaux préparatoires des consultations et que le gros de la des batailles, ce serait 25. Et donc là, on était prêts. Et ça, on ne l'a pas subi parce que comme on était prêt, on a pu appuyer sur la pédale quand il a fallu appuyer.
Et alors, dans cet ensemble de 2025, s'il fallait retenir une chose, une action marquante qui aurait un petit peu, on va dire, changé la donne pour vos adhérents ?
On va les trouver du côté de Bruxelles ou sur la RIS. On a quand même réussi à faire entendre une partie de nos arguments. Et la RIS, c'est les futurs textes structurants pour nos métiers. Je vais en rajouter une, c'est sur l'immobilier, où on a réussi à se faire entendre avec d'autres, mais l'Anacofi participant à toutes les réflexions et à l'obtention de textes au niveau immobilier, il y a 10 ans, on nous disait, vous êtes une association de CGP et de CIF, rien à foutre dans l'immobilier, quoi. Mmh. Et là, ça n'a pas été tout à fait ça, c'est on a réussi à installer notre place et à obtenir des choses.
Et vous diriez que, justement, puisqu'on parle en gros de réglementation, est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment aujourd'hui une association écoutée ou une association consultée parce qu'il faut la consulter ?
Alors, ils n'ont pas le choix de nous écouter dans certaines sphères et dans d'autres, ils nous écoutent parce qu'ils sont obligés de le faire. Voilà. C'est-à-dire que l'Anacofi, on avait inventé la représentation à 360 degrés et horizontale et verticale. Ça voulait dire quoi ? Qu'on essayait d'être présent dans absolument tous les univers où il fallait, pour représenter les professionnels, être. Alors il y a des domaines où ils nous ont enregistrés comme d'autres et puis sont obligés de nous demander notre avis. Et pour être honnête, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Ils feront ce qu'ils veulent à la fin. Ça peut être le cas de temps en temps de régulateurs, mais pas tout le temps, parce que dans la co-régulation, on arrive à avoir des discussions, mais dans certains cas, on comprend bien qu'ils nous demandent ce qu'il faut. Ça peut être le cas dans des consultations officielles d'un ministère ou de Bruxelles, mais on est 400 à répondre, on ne sait même pas s'ils liront notre réponse. Et puis, il y a des comités dans lesquels on siège, où pour le coup, on nous écoute vraiment, et des consultations, on nous demande expressément de venir. Donc, deux, par exemple, l'année dernière, sur des ministères, une sur la formation et, de nos métiers, hein, et une autre sur des sujets de régulation de l'immobilier, où là, ils nous ont demandé expressément de venir à nous, par exemple. D'accord. Et donc là, on sent bien qu'on est attendu. Et au CCSF, je pense qu'on peut dire quand même qu'au sein du comité consultatif du secteur financier, on est devenu un pilier qui arrive à faire passer pas mal de messages.
David Charlet, dans les sujets qu'on évoque très régulièrement depuis ces dernières années, il y a celui, bien évidemment, de la rémunération, des commissions. Et là, tout à l'heure, pendant votre trajet, on a un peu rigolé parce qu'il y a une petite anecdote, un truc rigolo qui s'est produit, c'est ça cette année ?
Oui, je pense qu'il y en a que ça n'a pas fait rire, mais nous, ça nous a fait sourire. Ça fait 20 ans ou 15 ans au minimum, mais une vingtaine d'années que le débat est ouvert autour de est-ce qu'on n'interdirait pas les rétrocessions ? Et puis dans cette bataille, à un moment, les Danois, qui eux ont interdit pour une bonne partie les rétrocessions, mais pilotent le texte de la RIS, puis disent bah, on est tenu maintenant par le texte de la simplification européenne qui nous demande de simplifier nos écritures de texte. Alors dans la simplification, il y a une règle toute bête, c'est les États ne pourront pas surenchérir et interdire un truc qui n'est pas interdit dans le texte européen. Et dans le texte européen, ils décident de ne pas interdire les rétrocessions. Et à partir de ce moment-là, vous avez les pays qui ont interdit. Sachant que le Danemark ne demande pas d'exception alors que lui l'avait fait. C'est-à-dire lui, il retire son interdiction, c'est ça que ça veut dire. Et vous avez les Hollandais qui pilotent la guerre pour l'interdiction depuis 20 ans, hein, qui là demandent en urgence une autorisation de dérogation à l'interdiction d'interdire. Enfin, ça, alors que depuis 20 ans, c'est eux qui pilotent l'attaque sur ce modèle, alors que nous, on est en défense, et de la défense, on est passé, on n'a même plus besoin d'attaquer, c'est à eux de se défendre.
Voilà donc pour ces quelques points un petit peu qui concernent la réglementation, la vie de l'Anacofi. Rentrons un petit peu dans la vie des conseils maintenant, qu'ils soient CIV, qu'ils soient CGP. Enfin, on va embarquer tout le monde dans nos questions. L'environnement, je ne vais pas vous le cacher, est un peu chahuté. Si on regarde toutes les classes d'actifs, par exemple immobilier, assurance vie, private equity, bon, on pourrait faire la liste. Est-ce qu'aujourd'hui il y a, quel est le point de tension majeur pour un conseil?
Oh, le point de tension majeur, c'est de savoir sur quel type d'actifs financiers on emmène les gens, que ce soit en unité de compte ou en investissement direct dans des titres. Je pense que c'est là qu'il est le plus tendu. Sur l'immobilier, on a compris qu'on a une crise. On a compris qu'on n'a pas relancé encore le marché. On essaye d'y travailler. C'est un marché très compliqué, mais on l'a déjà tous bien compris. Donc ceux qui ont développé une expertise là-dedans sont capables d'avoir un peu de lecture. Honnêtement, il est très très complexe. Hein. Nous, on vient de rechercher notre siège social et de découvrir des anormalités totales dans l'offre qui nous était faite. Hein. On va être clair, on le dit. Mais on a compris. Par contre, je pense que pour ceux qui aident leurs clients à investir dans des supports financiers, là, il faut quand même y aller en faisant très attention quelle zone géographique, quelle nature d'actif. Et toutes ces perturbations géopolitiques aussi, et pas seulement on fait la réforme ESG, c'est énormément de variables pour réussir à anticiper ce sur quoi il faudrait aller et ce qui sera gagnant.
Est-ce que dans ce cadre-là, vous vous dites le modèle d'un CGP, ça reste un modèle solide sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel un épargnant peut compter pour gérer son patrimoine et c'est, voilà, de se dire aujourd'hui...
C'est le meilleur. C'est le meilleur parce que c'est celui qui a légalement et en termes de formation la capacité de proposer tout ce qui peut exister. Donc à partir de ce moment-là, s'il fait un travail de qualité honnête et non biaisé, comme dit l'AMF, il est le seul type de professionnel, qu'il soit digital ou pas, qu'il soit digital ou totalement humain, il est la seule typologie d'entreprise qui a le droit et les compétences, sinon il ne pourrait pas obtenir ses agréments, pour pouvoir proposer à un instant T ce type de classe d'actifs ou de support juridique qui va bien, en abandonnant l'autre, puisqu'il de toute façon il sera payé.
Dans chaque idée, il doit être plus financier, juriste ou chef d'entreprise d'une start-up digitale, enfin...
Non, je pense qu'aujourd'hui, un CGP qui n'est pas un minimum chef d'entreprise peut être un très bon CGP, mais il est condamné à être le CGP du quartier, il faut qu'on soit très clair. C'est une variable qui a changé il y a très longtemps. Je pense qu'un bon CGP est aujourd'hui au moins en partie un chef d'entreprise qui est capable de réfléchir les problématiques de son entreprise, même s'il est tout seul, parce que le digital, parce que quels outils, parce que les règles administratives, sinon il va tuer sa boîte pour des raisons administratives et ou technologiques. Par contre, est-ce qu'il doit être plus financier ou plus juriste? On a eu une grande vague de transformation en juriste. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des CGP sont des juristes corrects et il faut l'être. Certains pousseront là-dessus, mais il faut l'être à minima. Ces temps-ci, compte tenu de la situation, il faut être un bon financier au sens de quelqu'un de capable de choisir au mieux les classes d'actifs. Ça se tassera après, mais dans le moment de l'histoire où on est, juriste, c'est une base. Là, il y a un moment de l'histoire, il faut être capable de choisir une classe d'actifs.
Si on se projette un petit peu, parce que c'est aussi votre job en tant qu'association qui représentait ces professions, vous dites que ce métier de conseil en gestion de patrimoine ou de CIF, etc., il sera plus complexe dans le temps qui vient, enfin, je ne sais pas si on se dit 5, 10 ans, enfin voilà, comment...
Alors plus complexe que ce qu'on a, je pense qu'on est déjà très très fort en Europe sur la complexité. Différent, c'est possible. Plus complexe, je ne suis pas sûr. Bon, il nous reste par exemple à régler un sujet, c'est comment on traite de la crypto sans être embêté par l'AMF qui vous mettra en prison parce que ce n'est pas autorisé quand, bah, bref, dans tel et tel cas. Mais ça, on va le régler avec le temps. Donc plus complexe, différent parce que les réglementations qu'on nous annonce vont être nouvelles, elles vont traiter des mêmes thèmes. On ne sait pas encore dire si elles vont être plus, si on va simplifier dans certains domaines. On va complexifier quelques trucs, mais on nous annonce qu'on simplifiera dans d'autres domaines. Alors il faudrait avoir la réponse à ça. Ce qui est clair, c'est que par contre, ce qui va être complexe, c'est qu'on sait qu'on va nous changer les règles et il faudra être capable de s'y adapter très vite pour reprendre la marche en avant de son entreprise en s'étant débarrassé des évolutions de mise en conformité et des outils qui vont bien pour le faire. Et ça, on va avoir une phase de ça comme on l'a vu en 2018-2019. Mais David, c'est pas tout de suite.
David, pour terminer, deux petites questions que j'essaye de poser un petit peu à tout le monde aujourd'hui au sein de cette convention. D'abord, dans le contexte actuel, chahuté, géopolitique, politique, fiscale, enfin financier, pétrole, enfin je vous en dévertez les pas mûrs. Est-ce que il faut garder sa stratégie patrimoniale, ne pas flipper, ou est-ce qu'au contraire il faut tout envoyer balader en se disant il faut que j'invente quelque chose de nouveau pour faire face à ce contexte mouvementé?
Faut jamais flipper quand vous êtes le conseiller de quelqu'un, c'est lui qui flippe, c'est pas vous. Sinon, vous faites plus votre métier de conseil.
C'est son client peut être flippé, donc il faut le rassurer.
Faut être
le point d'ancrage de son client.
Je dis toujours qu'un CGP n'est un bon CGP que quand il a géré une famille dans laquelle le client qui conseillait vient de mourir. Tout le monde est en stress, tout le monde est inquiet, tout le monde est. Mais tu ne sais pas si tu es un bon CGP quand tu n'as pas géré la crise chez les autres. Et que toi, tu la gères froidement et que tu es en capacité de les accompagner. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'atomiser certaines des stratégies patrimoniales qui ont été mises en place avec son client, mais il y a peut-être la nécessité, en effet, comme quand vous avez un problème de pilotage d'une voiture dans un accident, de savoir quel coup de volant il faut mettre, tout en garde. Pourtant, vous restez dans la voiture et c'est toujours sur la même route que vous essayez de rester. Mais il faut que les passagers et ceux qui vous ont demandé de conduire ne soient pas en panique, ils veulent être 10 secondes, mais à la fin, et qu'on soit toujours sur la route. Donc c'est ça le sujet. Donc il y aura des stratégies qui seront à rediscuter parce qu'elles ne sont pas adaptées, mais il ne faut surtout pas que les conseillers partent en panique, il faut qu'ils restent et qu'ils fassent leur travail. C'est dans ces moments-là qu'on les attend, et c'est en général dans ces moments-là qu'on a crédibilisé le métier et gagné des parts de marché. Parce que justement, les autres acteurs de la distribution paniquaient et faisaient vendre et acheter autre chose. Sans réelle
savoir garder son calme et être.
C'est en faisant ça correctement dans des moments de crise que les CGP ont gagné des parts de marché avant qu'on ne leur donne parce qu'on fermait des agences bancaires, par exemple.
Pour terminer, le conseil de David Charlet à un jeune aujourd'hui qui dit tiens, j'ai envie de me lancer dans ce monde de la gestion de patrimoine.
D'abord bien se former, puis rejoindre une association en utilisant les services qu'elle délivre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu étonnant, c'est qu'on croise des professionnels qui nous disent « je suis dans une association, la vôtre, hein, je sais pas très bien ce que vous offrez ». Alors quand tu viens dans une association qui a été construite pour accompagner, qui est constituée de pairs, hier on a fait notre réunion des représentants régionaux, c'est tous des CGP ou des courtiers, c'est des professionnels. Bon, bah là ils se parlent, ils se connaissent, ils se comprennent, ils échangent des idées, ils donnent un coup de main pour faire avancer la sauce et répondent à ces gens qui sont nos membres. Il faut utiliser nos services, il faut venir nous voir. Alors à distance,
ouais, dans c'est les pas juste une obligation d'être.
Et ça, je pense que si tu le fais pas, quand tu es un jeune, tu vas avoir l'impression que tu sais tout. Un jour, tu vas découvrir ceux qui se parlent et tu vas découvrir qu'il y a plein de trucs que t'as pas compris, alors que les associations françaises ont été faites pour les aider, et je ne parle donc pas que de l'Anacofi. Après nous on estime qu'on l'a fait le mieux, bien sûr, sinon on l'aurait pas fait comme ça. Mais ils ont cette chance en France, c'est pas le cas partout. Et nous en France, on est pluridisciplinaire. Vous avez vu tout à l'heure le président de la Fédération portugaise qui disait, nous on est très concentrés sur tout ce qui touche autour de la thématique bancaire.
D'accord.
Le reste, on a un tout petit peu sur le conseil, mais très peu, on n'accompagne pas trop là-dessus.
Merci beaucoup David d'avoir pris ces quelques minutes sur Radio Patrimoine. David Charlet, donc président de l'Anacofi.
La convention annuelle Anacofi sur Radio Immo et Radio Patrimoine.